Eh bien, bonjour à tout le monde. Désolée pour le retard. Voilà, donc là, la commande qui m'a été faite, c'est plutôt de donner des axes de travail pour ces trois journées. C'est aussi très fondamentalement de se poser une question, et j'enchaîne sur ce qu'a dit Jean-Charles, c'est comment tous ces travaux qui existent déjà dans la culture professionnelle, dont les revues didactiques du cahier pédagogique, Français aujourd'hui, les travaux du GFEN, etc., etc., pratiques, toutes les revues que vous avez pu fréquenter les uns et les autres depuis des années. Pourquoi toutes ces innovations, ces travaux, cette pensée n'a pas changé en profondeur les gestes professionnels des formateurs ? Parce que si on a toujours eu 10% des enseignants qui ont été dans l'invention et la créativité, globalement, ça ne bouge pas. Et tout, on en a de très nombreux exemples. Donc la question qui est posée aujourd'hui, et que moi je nous pose à nous tous, c'est, puisqu'on est en formation de formateurs, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? Que diable faut-il faire ? Pour arriver à faire bouger cette culture professionnelle, et l'idée étant de faire bouger cette culture professionnelle, non pas pour le plaisir de la faire bouger et de faire l'innovation, mais pour cette idée que notre système éducatif reste et développe de plus en plus de l'injustice sociale, augmente les écarts, etc. Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Notre système scolaire fabrique aussi une élite tout à fait performante, très recherché à l'étranger, en termes d'ingénieurs, de chercheurs, très recherché. Donc c'est-à-dire qu'on sait faire très bien pour une élite, mais pour, en termes de justice sociale, on est vraiment, vraiment, vraiment en panne. Et la question qui est posée, et c'est la raison de la place de la FEF ici, ça a été toujours le combat de la FEF ici, de travailler pour la démocratisation de l'école, et donc d'essayer par tous les moyens de tout mettre en œuvre pour la démocratisation de l'école. Aujourd'hui, il me semble, je crois que c'est assez partagé, qu'on est dans un ensemble de réformes, de la maternelle jusqu'au collège, qui sont pour la première fois dans l'histoire de l'institution relativement cohérentes. Il y a des fils rouges qui traversent de la maternelle jusqu'au collège. Des fils rouges qui, pour notre part, en tant qu'association pour la défense et le développement de l'enseignement du français, s'appuient très très fort sur la question des langages, sur lesquels nous nous sommes battus pendant fort longtemps, non pas maîtrise de la langue, mais des langages, grosse bataille, des langages dans les disciplines, des langages en arts plastiques, des langages en éducation physique, etc. On a ce fil rouge conducteur, la question du projet, je ne vais pas redévelopper. Donc voilà, il faudrait en quelque sorte qu'à la fin de ces trois jours, nous ayons un peu dans la tête, mais à mon avis c'est extrêmement à construire, quelles pourraient être les conditions favorisantes, institutionnelles, de formation, etc., pour qu'on arrive à un changement de culture professionnelle. C'est le métier qu'il faut interroger, c'est le métier qu'il faut faire évoluer au-delà des personnes singulières. C'est l'ensemble du métier qui doit prendre conscience qu'il faut aujourd'hui travailler autrement, d'une part pour la question de la démocratisation scolaire, mais aussi pour des questions d'adaptation, d'ajustement aux méthodologies nouvelles, à la société nouvelle dans laquelle on vit. Voilà. Donc, voilà la question. Quels enjeux, quelles visées pour les formateurs ? C'est pas clair. Quelles conditions favorisantes pour l'évolution du métier enseignant ? Voilà vraiment pour moi la question, pour moi, j'espère pour vous, et ça va se discuter. Voilà. Alors, de mon point de vue, je vais aller vite, hein, parce que dans le fond, c'est ce qu'on va faire pendant trois jours. De mon point de vue, nous avons quatre axes, quatre pôles pour la réflexion autour des projets qui vont être présentés, discutés ou inventés, etc. On a un pôle du côté des élèves, s'interroger sur les élèves, qu'est-ce qu'on veut pour les élèves, je vais y revenir. In fine, comme disait Jean-Charles, au bout du bout du bout, c'est les élèves qu'on vise. Le pôle des enseignants, qu'est-ce qu'il faut qu'ils bougent dans leur manière de penser, le métier. pour faire des projets et que ces projets, ça ne soit pas une crise de prurite de printemps et qui dure un an. Hein. On a fait tous dans la salle, des gens ici, on fait les 10%, on fait des tas de choses, fouf, qui sont retombées. Voilà. Mais j'ajouterai le pôle de la communauté scolaire, c'est-à-dire de l'ensemble des acteurs de la qui sont participants de l'école. Et puis évidemment, le bout, la visée, et ça sera notre vraiment notre chantier de recherche, le pôle des formateurs. Et l'idée, c'est quand même comment, à chacun de ces niveaux, penser la question de l'évaluation à partir d'indicateurs qui sont largement à construire, largement à construire, avec cette idée que l'évaluation, en termes d'outils comme pilote et variable d'ajustement pour améliorer, ajuster, ne pas refaire les mêmes choses, etc. Voilà. Alors, du côté du pôle des élèves, et j'ai dit du pôle des élèves en tant que personne, aujourd'hui enfin ça arrive, la notion qu'un élève c'est une personne à part entière, avec des émotions, une culture, des valeurs, une histoire, un rapport au langage, mais c'est aussi des sujets scolaires qui sont sujets en histoire, qui sont sujets en maths, qui sont sujets en EPS, etc., dans les diverses divisions. Donc il me semble que interroger les projets en termes de qu'est-ce qu'il y a comme objectif, comme savoir, comme compétence langagière, alors je fais un paquet, hein, langagière, cognitive, culturelle, vous remplissez, évidemment. Mais en ce qui nous concerne très précisément, qu'est-ce qu'on attend dans et au bout du projet, comme mode de lire, mode d'écrire, mode de parler, non seulement pour communiquer, s'exprimer comme on a l'habitude, mais aussi essentiellement pour nous. Enfin, on est quelques-uns, et Jean-Charles avec moi, pour avoir beaucoup travaillé sur cette question de l'oral et l'écrit, pour penser, apprendre et se construire, l'oral et l'écrit réflexif, hein, pas encore trop développé à l'école. En gros, comment on va développer cette réflexivité langagière, mais aussi la dimension communicative et expressive, indéniablement. Comment aussi, me semble-t-il, on doit s'emparer des questions de la culture pour les élèves, non pas pour en faire des bêtes de salon ou des bêtes de concours ou des gens qui vont répéter les citations ou qui vont montrer qu'ils fréquentent, mais comme des outils, la culture comme un outil pour penser sa vie, pour penser ses problèmes, pour penser le monde autour, pour penser les difficultés de la société d'aujourd'hui, les difficultés familiales, les difficultés culturelles. En gros, pour en faire des instruments pour penser le monde et se penser soi-même. Or là, il me semble qu'il y a eu des dérives dans notre institution, de ce point de vue-là, de faire de la culture un outil, de patrimoine c'est important, mais un outil technologique, etc. Voilà, je crois qu'il y a des questions. Et dans les projets que nous connaissons et que nous avons rencontrés, cette question de la culture, l'acculturation, l'appropriation de la culture et la possibilité de transférer la culture pour se penser et exister, il me semble qu'on a des tas de belles choses qui existent déjà. Deuxième partie, moins vue, moins commune, moins dite, parce qu'elle sort un peu des travaux de recherche de ces deux, trois dernières années, en tous les cas avec les équipes de Montpellier et notamment les petites équipes de la FEF qui ont travaillé sur ces questions-là, la question des gestes sociaux d'apprentissage. C'est-à-dire que le rôle de l'école, c'est effectivement de construire des communautés apprenantes où on se parle, où on s'écoute, où on parle ensemble, où on dialogue ensemble, où on résout ensemble des questions compliquées, où à plusieurs, on est plus créatif. Hein. Là, il y a des objectifs que j'appelle, moi, des gestes sociaux d'apprentissage, des gestes du vivre ensemble. C'est le travail en collectif, c'est l'écoute de l'autre, c'est sens de l'empathie. Quand je voyais hier à la télévision les ravages, je ne sais pas si vous avez vu cette émission sur le harcèlement à l'école avec tous les téléphones portables, il y a de quoi vraiment être très très inquiet et il y a de quoi poser cette question fermement. Qu'est-ce que c'est qu'être à l'école ensemble, dans une communauté scolaire, dans une communauté éducative où on est là pour faire des choses ensemble. D'autres objectifs en termes de responsabilité, de capacité à prendre son projet, à le continuer, à s'engager, à être autonome, etc., qui sont des qualités tout à fait nécessaires et importantes. et qu'on voit se développer très rapidement à l'occasion de projets. Moi, je reviens d'un stage de 2 jours dans l'enseignement technique et j'ai vu des parcours impressionnants d'élèves dans cette capacité à se prendre en charge, à prendre en charge les projets, à aller se débrouiller pour les chercher. Donc il me semble que là il y a des axes très importants. Ça, c'est plutôt l'axe, le pôle des élèves. Le pôle des enseignants. Quand on réfléchit aux enseignants, pareil, hein, les enseignants sont des personnes avec une histoire, des valeurs, une expérience, des doxas, des certitudes, des angoisses. Hein. Voilà. Donc, à mon sens, deux axes, celui du travail préparatoire, parce que travailler en projet, c'est du travail au bureau, c'est du travail en équipe. Et selon les types de projets, c'est quelquefois, me disaient les collègues avant-hier, là, c'est quand même un très très gros projet que d'arriver à penser un projet qui va durer ou 5 heures parfois, mais ça peut être compliqué, ou 5 semaines. Hein. Et donc ça veut dire qu'il y a un travail d'ingénierie tout à fait spécifique et qui est d'autant plus complexe quand on est dans l'interdisciplinaire, etc. Deuxième énorme question, puisqu'on est sur la démocratisation de l'école, et on est sur comment faire en sorte que cette politique de projet, elle aille dans le sens de la démocratisation scolaire. Comment je gère l'hétérogénéité de la classe? Je fais des groupes, je fais des îlots, comment je les constitue? Je fais du collectif, etc. Voilà. Le choix aussi de tous les dispositifs, à quel moment j'introduis de l'oral, à quel moment j'introduis de l'écrit, à quel moment j'introduis des oraux ou des écrits intermédiaires. Voilà. Un autre aspect tout à fait important, c'est la question des ressources. Des ressources disponibles apportées par l'enseignant ou apportées par l'établissement. Et l'autre jour, les collègues du technique me disaient, ben oui, mais les gamins, ils ont tous leur téléphone portable et ils ont tous Internet illimité. Voilà. Est-ce qu'on va leur interdire Internet alors que très rapidement, ils vont chercher les documents, très très rapidement, des vidéos, ils vont se les passer, etc. Et donc les collègues ont dit, on accepte, on prend. On fait confiance, on accepte. Donc il y a des questions qui se posent. Hein. Voilà. Ensuite, évidemment, se poser la question de la nature du projet. Et moi, je suis... la pédagogie du projet, c'est quand même une pédagogie, quelque part, de l'œuvre finale vers laquelle on va, et on ne capitulera pas, on ira jusqu'au bout, film, expo, théâtre, jeu. Alors, selon l'œuvre finale et sa complexité, évidemment, il y a du travail différent. Donc oui, je pense que c'est des lignes. Mais de manière tout aussi importante et presque plus, parce que le premier axe, on connaît bien, on sait, les professionnels, les gens qui ont déjà fait des projets, ils savent faire ça. Ils ont même de la réflexivité avancée là-dessus. De manière plus importante, c'est la mutation sur les gestes professionnels et les postures des enseignants. Comment ne pas être en posture, enfin je ne sais pas ici si tout le monde connaît notre fameux modèle des gestes professionnels. Mais en gros, comment passer d'une posture de contrôle où je veux tout donner, tout contrôler, à une posture d'accompagnement où je vais être à côté, je vais être en tête à tête, je vais passer dans l'îlot, ou à une posture carrément où je vais lâcher prise, hein, et je vais faire confiance et ils vont se débrouiller. Voilà. Donc la question, là cette fois-ci, c'est pendant la conduite du projet, c'est dans la classe qu'il y a tout un jeu à avoir et probablement à modifier. Voilà. Mais l'expérience montre encore que ce sont des choses qui peuvent bouger assez rapidement. Troisième, je ne sais plus où j'en suis, le pôle de la communauté scolaire. Il apparaît que peut-être une des conditions de la pérennisation, de la durée dans l'histoire et dans le temps et dans la culture professionnel, c'est de faire en sorte que ces projets s'inscrivent dans la construction d'une communauté scolaire. Cela veut dire qu'il est impossible d'imaginer des projets sans qu'on pense les conditions facilitantes en termes de travail en équipe, en termes de programmation au mois de juin pour le mois de septembre, en termes de choix des équipes, en termes de mutation, en termes d'accompagnement, en termes de financement, en termes de régulation. on a là une responsabilité de l'établissement dans sa dimension totale pour créer les conditions facilitantes et non pas quelqu'un dans son coin tout seul qui fait un petit truc sympathique, magnifique, mais qui retombera aussi sec dès qu'il partira. Donc du coup, ça pose la question de trouver des formes de communication à l'intérieur de l'établissement, dans les réseaux intra qui commencent à exister dans pas mal d'établissements, de comment on va valider, valoriser, mettre en évidence le travail qui se fait dans une discipline pour que ce qui se fait chez le prof de français en travaillant en ILO puisse se faire aussi dans le cours d'anglais à côté, par exemple, etc., pour qu'il y ait du transfert. Et puis j'allais dire aussi, on ne peut pas faire ça sans un axe de la communication, participation avec des partenaires extérieurs. Les collègues l'autre jour me disaient qu'ils avaient montré des vidéos de petites pièces de théâtre qu'ils ont jouées en lycée professionnel aux parents qui se sont mis à rire et qui se sont moqués de leurs enfants. Voilà. Et donc, blessure profonde des enseignants. Les parents n'avaient pas compris toute la démarche, toute l'ironie, tout l'humour qu'il y avait dans la construction de ce projet. Un travail absolument magnifique. Mais les parents ne l'avaient pas compris. Donc le leur présenter brutalement comme ça, c'est aller à l'encontre. Donc on ne peut pas travailler sans et contre les familles. C'est impensable aujourd'hui. C'est impensable. D'autant que les gamins, ils se filment eux-mêmes et les parents, ils ont accès. D'accord ? Voilà. Et axe de la participation avec les familles, mais aussi, je vois sur Toulon, là, où je vais un peu dans des collèges, dans un collège, il y a beaucoup de travail avec des partenaires industriels, avec des partenaires des entreprises, qui vont jouer leur jeu et qui peuvent jouer leur rôle, et c'est pas l'entrée de l'entreprise à l'école, hein. C'est un travail d'ouverture au monde extérieur. Enfin, du coup, la question qui nous intéresse et qui est au cœur du cœur, en tous les cas, de notre problématique sur le souci que nous avons, notamment en tant qu'association, mais en tant que responsable institutionnel, le souci, c'est de la transformation du métier. Et je pense que j'ai pas de réponse, hein, et on va essayer d'avancer. C'est autant des questions et des dilemmes. En d'autres termes, un enseignant heureux, un enseignant efficient, un enseignant qui tient dans le métier toute sa vie, c'est un enseignant qui est créatif. Ça veut dire que c'est un enseignant qui, il va bouger, il va inventer en fonction de ses élèves, en fonction de l'établissement, etc. Et donc cette créativité, ce dynamisme, il va l'apporter à ses élèves. Donc comment faire en sorte que les enseignants, ils ne soient pas des reproducteurs de projets, mais des fabricants de projets, des auteurs de projets. Et donc du coup, la question qu'on va se poser, et je sais qu'il va y avoir plein de projets extrêmement intéressants qui vont être présentés, est-ce que ce sont des modèles? Et quel est le statut des modèles? À quel moment on les donne? Quelles sont les limites? Voilà, j'en donne trop, j'en donne pas assez. Hein, voilà. La question tout à fait importante, elle n'est pas simple, c'est comment, dans le fond, la question, c'est comme pour les élèves, ce n'est pas de faire aux enseignants, c'est de faire penser les enseignants. C'est de faire réfléchir sur pourquoi ils ont fait ce si joli projet sur les fables de La Fontaine, etc. Parce que quelquefois, ils ne savent pas. Peuvent pas dire pourquoi ils ont mis en théâtre une fable de La Fontaine avec des élèves de CAP. Il faut aller chercher, tirer le fil, pour essayer de faire comprendre qu'est-ce qui se joue derrière cette pratique. Qu'est-ce qui se joue derrière ces projets? Qu'est-ce qui se joue derrière ces dispositifs? Donc comment développer cette réflexivité critique des enseignants, ce que je pourrais appeler une conscience critique professionnelle? Mais du coup, dès lors qu'on pose cette question de pourquoi je fais faire ça, pourquoi le petit Mohamed, complètement macho, etc., j'ai réussi à lui faire mettre une perruque et à le faire jouer un rôle de femme et faire la vaisselle dans une scène de théâtre, et c'est une victoire incroyable, et pour lui, et pour les autres élèves, etc., qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça veut dire, qu'est-ce que j'ai comme valeur, comme conviction sur l'éducabilité, la possibilité pour les élèves de bouger, quel talent insoupçonné des élèves je ne suis pas allé chercher, par exemple, Voilà. Donc il me semble que nous, dans notre équipe à Montpellier, on avait appelé les logiques profondes, les logiques d'arrière-plan, mais c'est loin, hein, c'est loin. Donc du coup, voilà, genre de question. Comment je m'y prends pour y arriver? Une grosse question qui arrive aujourd'hui, c'est quel rôle pour la vidéo? Vidéo non accompagnée, c'est le pire. Vidéo commentée, oui. Donc on a, attention, hein, voilà. Quel rôle et quelle place des apports théoriques à quel moment? Bref, globalement, on est à un moment, faut le dire tranquillement, si on veut véritablement qu'il y ait des réformes, ce que nous souhaitons, nous pensons que la visée première, c'est les formateurs. C'est les corps d'inspection, c'est les formateurs. C'est eux qu'il faut faire bouger en priorité. Parce que c'est eux qui sont chargés de l'accompagnement, c'est eux qui sont chargés de l'évaluation aussi, quelquefois. Et donc, du coup, la question est bien de réfléchir, et il y a des travaux qui commencent à arriver, sur les gestes et postures professionnelles d'accompagnement. Quels sont ceux qui font se développer? Quels sont ceux qui empêchent le développement des compétences professionnelles des enseignants? Voilà, vous voyez. On devrait doucement avancer sur ces questions au cours de nos trois journées, tranquillement, en travaillant, comme le disait Jean-Charles, toujours sur le concret, sur des choses précises, sur du travail en situation. Voilà, je vous remercie.